manger tue. Voilà l'un des premiers slogans phares de 2011. Avec la sortie concomitante de plusieurs documentaires, ouvrages sur les dangers de l'alimentation, il y avait manger peut-il nuire à la santé, notre poison quotidien, la grande invasion. En termes de documentaire, alors le livre « Notre poison quotidien »,« Faut-il manger les animaux ?», le livre noir d'agriculture. Il y a eu moult documentaires et ouvrages jolives pour une nouvelle année. Nous avons donc attendu quelques mois un nuage nucléaire, des concombres échériacolisés pour aborder sereinement la question de l'alimentation, avec un beau challenge, voir comment il serait possible de conjuguer alimentation, santé, plaisir pour tous, et plus précisément pour toutes les bourses. Bien manger n'est pas réservé aux bobos qui font leurs courses dans les marchés bio, comme le chantait Renaud. Bien manger n'est pas un luxe, et c'est ce que nous allons voir avec notre invitée, Agathe Cousin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable partenariat et communication de l'ANDES, qui est l'Association nationale du développement des épiceries solidaires. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Et on a aussi Laurence qui est là, parce que Alexandre est en vacances.
Oui, bonjour.
Bonjour Laurence, qui nous a prévu sa petite chronique. Zoom Écologie 106.3, c'est parti.
Zoom Écologie, tous les jeudis soirs, de 20h30 à 21h30, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3.
Alors la désormais classique chronique de Laurence, en ce mois de juillet radieux, tu nous as préparé des bonnes nouvelles, je crois.
Oui, parce qu'en cette soirée de juillet 2011, alors que le blues automnal se saisit de nos esprits qui, tels des tournesols tchernobylisés, de tous côtés se tournent pour trouver le soleil, je pourrais vous parler des 12 millions de personnes menacées par la famine dans la Corne de l'Afrique, des tambours militaires aux relents xénophobes de M. Fillon, ou encore du manque criant de financement de l'urgence sociale en France, avec notamment la fermeture du centre d'hébergement pour femmes du SAMU social à Paris. Eh bien non, exceptionnellement, je ne ferai pas la grincheuse. Aujourd'hui, pour tenter de réchauffer nos corps mouillés aux timides flammes de l'espérance, j'ai choisi de ne parler que de bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, les organisations environnementales françaises, enfin certaines, ont envoyé une lettre à M. Sarkozy pour lui demander d'arrêter de soutenir le projet de centrale EPR en Inde, à Jaitapur, un projet dont on a déjà parlé à Zoom Écologie. Ce projet sur une zone sismique, une réserve de biodiversité. C'est donc une bonne nouvelle pour les habitants de cette région qui sont très mobilisés contre ce projet de centrale. Ils n'ont pas envie d'un Fukushima chez eux, on les comprend. Deuxième bonne nouvelle, justement, le chantier, puisqu'on parle d'EPR, le chantier de la centrale nucléaire EPR de Flamanville a pris beaucoup de retard et son coût a presque doublé. Et hop, un nouvel argument pour dire non à l'EPR en France, en Inde ou en Finlande. Autre chantier qui a pris beaucoup de retard et qui coûte très 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 cher. Troisième bonne nouvelle, en Finlande justement, il y a depuis peu deux ministres écolos au gouvernement. Vivre entre lacs et forêts, ça donne envie de respecter la nature, on dirait, pas de la saccager. Quatrième bonne nouvelle, le tourisme en Grèce se porte bien, merci. Les voyageurs qui ont renoncé à se rendre en Tunisie cet été se sont rabattus sur le pays européen déchiré par la crise. Enfin, c'est une vraie fausse bonne nouvelle, hein. On a parlé ici des dégâts du tourisme de masse. Tiens, d'ailleurs, si vous ne savez toujours pas où partir en vacances, si vous avez la chance de pouvoir partir en vacances, allez donc faire un petit tour sur le site de l'ATES, nos invités de la dernière émission, tourismesolidaire.org, ou encore accueil-paysan.com, parce que le commerce équitable, c'est nord-sud, mais aussi nord-nord, et que les paysans, les petits paysans, ont bien besoin de compléter leurs revenus tant que la PAC ne sera pas réformée. Cinquième bonne nouvelle, plus de 5000 personnes étaient réunies en juin dernier à l'ancienne Bourse de Paris pour les états généraux de l'économie sociale et solidaire. Comme quoi on peut remplacer les traders par d'autres échanges et un autre modèle de développement. Sixième bonne nouvelle, Médecins sans frontières participe à la mise en place d'un réseau de soins psychologiques à Misrata en Libye pour venir en aide aux personnes traumatisées par les combats. En fait, je suis pas sûre que ce soit totalement une bonne nouvelle. Donc, pour finir, une vraie, vraie bonne nouvelle, les écologistes ont choisi la tenace Eva Joly comme candidate à la présidentielle, une femme née ailleurs qui a construit sa vie ici, un beau symbole, n'en déplaise à ceux qui ont une vision de la France étriquée et excluante. Allez hop, les bonnes nouvelles, ça suffit.
C'était pas mal, Laurence. Hein. Et puis avec ce soleil radieux là, qu'on voit au travers de la fenêtre, c'est tout à fait assorti. Alors, on va donc aborder le thème de ce jour, comment allier alimentation, nutrition, santé pour tous. C'est ce que nous allons voir avec Agathe Cousin de l'ONDES. Alors, on a aussi une personne qui s'occupe des chantiers d'insertion avec nous, qui interviendra peut-être s'il le souhaite, qui vous fera signe. Voilà. Alors, début juillet, on a vu poindre un rapport qui pointait les chiffres du gaspillage alimentaire en France. Si j'ai bien noté, mais vous me corrigez, c'est 89,9 kg de nourriture gaspillée par habitant et par an. Soit 430 euros par habitant, et je crois qu'en plus c'est plus élevé en Île-de-France puisqu'on arrive à peu près à 114-115 kilos. C'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Et soit 21% des produits achetés, c'est-à-dire qu'il y a un produit sur 5 qu'on achète qui passe à la poubelle. Et je crois que même parmi ces produits, il y en a qui sont pas du tout ouverts, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors, lutter contre le gaspillage alimentaire, je crois justement que c'est un des fondamentaux de l'ONDES, Agathe. C'est un peu la raison d'être de l'ONDES, non, si je ne m'abuse?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que l'ONDES, sa première mission, c'est de fédérer les épiceries solidaires. L'aide alimentaire, en règle générale, repose beaucoup sur la récupération d'invendus auprès des supermarchés, auprès des producteurs, auprès des industriels. C'est à la fois, si on veut voir les choses dans une manière positive, une manière de récupérer des produits et de les donner à des gens qui en ont besoin. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas non plus que l'aide alimentaire repose uniquement sur la récupération d'invendus pour des questions d'image. Nous, quand nous avons développé le réseau des épiceries solidaires, le concept des épiceries, c'est celui du choix des personnes, des produits qu'elles souhaitent consommer. Et donc, si vous arrivez dans un magasin, c'est un petit peu comme vous arriviez dans votre supermarché local et que vous ne trouviez que des produits agis à un jour ou deux jours de date limite de consommation, c'est un petit peu stigmatisant. Cela dit, on s'est affronté à ce problème-là, notamment sur la question des fruits et légumes. Vous savez que les fruits et légumes, tout le monde vous dit tous les jours qu'il faut en manger énormément, sinon vous allez mourir de toutes les maladies.
Les fameux 5 fruits.
Les fameux 5 fruits et légumes par jour qu'on vous rabâche quotidiennement par le Programme National Nutrition Santé. Ces fruits et légumes, vous le savez.
C'est quoi ce programme ?
Le Plan National Nutrition Santé, c'est un programme qui a été mis en place il y a quelques années par le ministère de la Santé pour donner des repères nutritionnels aux citoyens français.
Il y a un relais au niveau parisien, si je ne m'abuse.
Il y a un relais dans toute la France et des grandes campagnes de communication qui ont un grand intérêt puisqu'on sait que la consommation des fruits et légumes, notamment, a augmenté grâce à cette communication-là. Cela dit, nous qui travaillons avec les populations précaires, on sait que ces populations-là ne peuvent pas consommer 5 fruits et légumes par jour parce que ça coûte très cher et que quand vous vivez au RSA et que vous avez 2 enfants et que vous êtes une femme seule, vous ne pouvez absolument pas vous offrir ce type de consommation. C'est pour ça qu'on est allé se balader sur le marché de Rungis, le mine de Rungis, le ventre de Paris, le plus gros marché de produits frais d'Europe.
Une mine d'or.
Le mine d'or, exactement. Et qu'on s'est assez vite rendu compte que les grossistes de Rungis, puisqu'il n'y a que des grossistes, jetaient des grandes quantités de produits pour plein de raisons, à cause de la saisonnalité. Par exemple, avec le magnifique temps de juillet que nous avons, la consommation des fruits et légumes baisse énormément parce qu'on a davantage envie de manger des pêches quand il fait très beau que quand il fait ce temps-là, pour des questions de maturité trop avancée. Et comme les grossistes sont des intermédiaires, ils n'arrivent pas à vendre certaines catégories de produits. Et donc, au lieu de les trier, coûte trop cher parce que trier, c'est de la main-d'œuvre. Donc, ils les jetaient. Et d'ailleurs, une partie de ce qui est jeté à Rungis sert notamment à chauffer l'aéroport d'Orly. Et donc, on s'est dit que voilà, c'était peut-être mieux de récupérer ces produits. Donc, on a créé un chantier d'insertion. Un chantier d'insertion, c'est quoi? C'est un dispositif qui permet de ramener des gens qui sont éloignés de l'emploi, qui sont sans emploi depuis plus de 2 ans, qui ne trouvent pas de travail pour tout un tas de raisons, parce que ce sont des jeunes sans qualification, parce que ce sont des gens qui ont 50 ans et qui ont du mal à retrouver un travail à cet âge-là. Et on prend ces personnes-là et on donc il y a tout un accompagnement socio-professionnel et on ramène ces personnes-là vers l'emploi. Et leur activité sur le chantier, c'est de trier des fruits et légumes qui nous sont donnés par des grossistes, qui seraient autrement jetés à la poubelle, qu'on trie donc et qu'on redistribue aux associations caritatives, à toutes les associations caritatives d'Île-de-France, qui permet à des personnes qui ne pourraient pas autrement consommer des fruits et légumes d'en avoir tous les jours dans leur panier.
Justement, à ce sujet-là, on a eu une grosse inquiétude là, il y a peu de temps parce que il y a eu au niveau européen un arrêté de justice concernant le programme d'aide alimentaire aux plus démunis. C'est un volet de la PAC, de la politique agricole commune, qui jusque-là était abondé lorsqu'il n'y avait pas d'invendu, enfin pour faire simple, lorsqu'il n'y avait pas d'invendu agricole, ce qui se produit souvent, ce qui risque de se produire cette année qui est une année de sécheresse, en fait il y avait un mécanisme de compensation financière. Or, l'Allemagne notamment a dénoncé cette mécanique qui n'était pas conforme au règlement. Et donc, il y a eu un grand cri d'alarme de la part des banques alimentaires, des Restos du Cœur, de l'ensemble des associations qui fournissent de l'aide alimentaire aux personnes les plus démunies, parce que ça représente de 20 à 40% des apports, notamment en produits frais, pour ces... Non, pour les produits secs, ok. Oui. Et c'est un vrai souci. Donc il y a eu toute une, il y a eu des alertes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, en tout cas, vous avez peut-être des réponses, mais il y a eu des interpellations politiques pour qu'il y ait très rapidement un nouveau règlement qui permette que ce programme-là s'inscrive de manière pérenne.
Oui, tout à fait. Le programme dont vous parlez, le PEAD, le programme européen d'aide aux plus démunis, est un programme qui a été créé il y a déjà plus de 30 ans, une trentaine d'années, une vingtaine d'années, et qui en fait était à la base fondé sur la gestion des surstocks agricoles, notamment de blé, de beurre, de lait, plein de produits qui n'étaient plus vendus à cause d'une surproduction à un moment donné, et donc qui n'étaient plus vendus pour éviter que les cours s'effondrent, et qui étaient donc confiés aux États pour qu'elles-mêmes les confient aux associations d'aide alimentaire pour subvenir aux besoins des personnes les plus précaires. C'est un programme qui a évolué parce qu'il y a de moins en moins de surstock agricole et que donc ce programme s'est petit à petit transformé en un programme de financement d'un certain nombre de produits pour subvenir aux besoins de ces personnes-là en Europe. C'est un des seuls programmes, si on veut bien, sauf les programmes européens qui viennent en soutien à l'emploi, mais sinon c'est un des seuls programmes sociaux, en tout cas pour ce qui concerne l'aide aux plus démunis en Europe. Et en effet, c'est un programme qui est tout à fait menacé aujourd'hui par une décision en effet du tribunal qui considère que la PAC est une politique agricole et donc pas une politique sociale et que le PEAD n'a pas lieu d'être. On peut évidemment s'interroger dans le sens où c'est une coupe sombre dans l'aide alimentaire au niveau européen qui est tout à fait dramatique pour les structures puisque c'est une source d'approvisionnement majeure de l'aide alimentaire aujourd'hui et qu'on peut tout à fait légitimement s'interroger sur l'avenir de ces structures si, comme on l'a annoncé, le PEAD était en effet amputé de, je crois, quelques 400 millions d'euros.
Alors, est-ce que ça ajoute à ça aussi un certain nombre de normes en matière alimentaire ou pas, que ça soit européen, que ça soit français, en termes de conservation des éléments c'est la question que je me posais au départ. On a dépassé une certaine date de péremption
Alors nous, on est tout à fait... Enfin, je pense que toutes les structures d'aide alimentaire ont la même position. En tout cas, la nôtre est de dire que une structure d'aide alimentaire, une épicerie solidaire, c'est comme un magasin classique. C'est-à-dire que vous trouvez, dans certains cas, des produits qui sont des dates courtes parce qu'il y a eu un don ponctuel d'un supermarché. Il ne s'agit jamais de trouver un produit avec une DLC, c'est-à-dire une date limite de consommation qui soit dépassée, parce que d'abord c'est contre la loi, et qu'une structure d'aide alimentaire est comme un magasin traditionnel et que donc doit respecter les mêmes règles d'hygiène, la même traçabilité, la même chaîne du froid. Et justement, tout notre travail à l'Andes consiste à accompagner ces structures, à professionnaliser les structures, notamment les bénévoles, pour qu'ils soient aussi professionnels qu'un employé de supermarché, c'est-à-dire qu'ils respectent, qu'ils connaissent toutes les règles de chaîne du froid et de traçabilité matière.
Et comment vous faites en l'occurrence par rapport aux bénévoles, la formation des bénévoles, elle passe par quoi?
Alors on a toute une équipe de salariés, à Landes nous sommes uniquement des salariés, on a toute une équipe de petits soldats armés qui sont dans toute la France, qui ont en charge une région avec une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'épiceries solidaires.
Avec une tête de réseau
et... Voilà, nous sommes la tête de réseau et ces gens-là sont des salariés de Landes et ils vont faire le tour des épiceries, former les épiceries, les bénévoles, aux normes de traçabilité, aux normes d'hygiène, au respect de la chaîne du froid, et puis aussi à toutes les activités qui sont créées dans les épiceries, parce que les épiceries, c'est bien sûr une aide alimentaire, mais c'est pas que ça. C'est aussi, vous connaissez peut-être le principe de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire que l'être humain a besoin de satisfaire ses besoins premiers, c'est-à-dire par exemple se nourrir, se vêtir et avoir chaud. Et ensuite, au sommet de la pyramide, il y a l'estime et la confiance en soi. Et donc, on dit souvent que l'aide alimentaire est un prétexte et qu'à partir de ce prétexte-là, on retricote avec la personne pour qu'elle arrive dans une situation de confiance en soi, d'estime d'elle-même et qu'elle puisse être en capacité de rebondir pour sortir d'une situation de précarité.
Alors ça, c'est ce que vous travaillez dans les chantiers d'insertion, en l'occurrence, non ?
Tout à fait, oui.
Bonsoir.
J'ai oublié votre nom et votre prénom.
Gauthier Auchard.
Donc vous, vous occupez de chantiers d'insertion à Landes, d'un chantier d'insertion.
Alors, plus exactement, je gère le pôle insertion par activité économique, donc, qui englobe aujourd'hui 4 chantiers et bientôt un 5e.
Vous pouvez détailler un petit peu ce que vous faites dans ces chantiers d'insertion, quel type d'activité?
Alors Agathe l'a présenté tout à l'heure, mais effectivement la fonction première est une fonction logistique hein, qui consiste à récupérer sur le site de Rungis les invendus pour ensuite les trier et préparer ensuite des commandes qui sont réalisées à partir des desiderata des structures d'aide alimentaire au regard à la fois des produits que nous avons récupérés, valorisés et également au travers d'une politique d'achat qui est financée par l'État et qui nous permet de compléter ces commandes avec une variété de fruits et de légumes de saison hein, en vue effectivement d'être ensuite livrés dans les structures d'aide alimentaire.
Il y a combien de kilos, de tonnes, de palettes qui partent chaque jour? On aime les chiffres. Oui,
si vous aimez les chiffres, je peux vous donner un chiffre, on va dire consolidé. Sur Rungis, l'année dernière, nous avons livré 770 tonnes de fruits et légumes frais. Nous avons donc effectivement un autre chantier sur Perpignan qui a fait un peu plus de 400 tonnes. Et là, récemment, nous avons donc ouvert un autre chantier sur Lille dans le Nord-Pas-de-Calais et sur Marseille, sur le site des Arnavaux. Donc là, quelques dizaines de tonnes sortent, mais on peut dire que Rungis, voilà, peu de choses près, gère à peu près 3 tonnes, entre 3 et 5 tonnes selon la saison, de fruits et légumes à livrer sur l'île de France.
Vous avez parlé de Perpignan. Oui. Pourquoi Perpignan? C'était un des chantiers historiques, non?
Alors, Rungis, c'est le chantier historique. Et fort de la médiatisation de cette bonne idée, cette idée simple, mais qu'il fallait mettre en pratique, le marché Saint-Charles international, qui est en fait le seul marché de gros privé sur la France, mais qui est le plus important, puisque aujourd'hui 90% des fruits et légumes que nous consommons en Europe passent à un moment donné par Perpignan. Et donc, fort de cette première expérience, le marché Saint-Charles a souhaité nous rencontrer et étudier la possibilité de créer un chantier identique sur leur site, chose qui a donc été faite. Et nous avons ouvert ce chantier il y a maintenant bientôt 2 ans.
Alors, quel est l'intérêt pour les grossistes, au-delà du fait de se débarrasser d'un vendu, peut-être de se donner un petit peu bonne conscience, quel est l'intérêt pour eux?
Alors, au-delà de l'aspect pratique et de l'aspect de solidarité et d'image, il y a évidemment et également un aspect économique, puisque tout donateur est exempté de la taxe de destruction. Donc, à un moment donné, si vous voulez, nous avons toujours bâti nos chantiers sur le principe de gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on ne se met pas en opposition avec le monde économique. L'idée, effectivement, est de trouver un point d'accord où tout le monde ressort gagnant.
Alors, pourquoi ils ont intérêt à vous donner, à vous, et pas à d'autres. Parce que si j'ai bonne mémoire, il y avait les banques alimentaires qui existent quand même depuis... Vous existez à peu près depuis 2000, hein, je crois que c'est la date que vous avez donnée. Les banques alimentaires, c'est un petit peu plus vieux. Le Secours catholique, dans certaines régions, dans certains départements, avait monté des épiceries solidaires. En quoi vous vous différenciez d'eux? Une approche un peu marketing?
Alors, non, je ne pense pas que c'est marketing, mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'IAE, donc l'insertion par activité économique, est le pilier de notre fonctionnement. Et donc, qui dit insertion par activité économique, donc dit pro. Et nous avons décidé de forcément mettre les moyens derrière pour à la fois offrir un service de pro auprès du monde économique, parce qu'il faut qu'on parle boutique. Il faut qu'on parle de la même chose et qu'on s'entende. Et pro également, parce que vis-à-vis de l'insertion, on partait également du principe qu'en donnant de bons outils à nos salariés, à nos employés, se sentant considérés et responsabilisés, on pourrait espérer voir sortir un bon travail. Et c'est le cas. Et ça marche.
Et alors, les salariés en insertion, une fois qu'ils quittent la structure, quel type de travail vont-ils trouver ?
Alors, tout le monde s'attend très souvent à dire, ben, effectivement, puisqu'on travaille dans la logistique, dans les fruits et légumes, ils vont tous retrouver un boulot là-dedans. Je vais les décevoir parce que ce n'est pas forcément le cas, au sens où on est toujours questionné entre notre mission d'insertion, d'accompagnement et la mission économique, c'est-à-dire le boulot. Et la mission insertion, c'est avant tout de répondre et d'accompagner le projet personnel de la personne. Et donc, automatiquement, on travaille sur toutes les filières, tous les métiers, et la mission de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice socio-professionnelle va être de trouver une solution à l'emploi, parce que même si les chantiers d'insertion sont censés être une étape dans un parcours d'insertion, on est assez fou, puis on a assez envie d'être jusque boutiste en disant on veut être un moyen, mais on veut être aussi une solution pour ces gens-là qui galèrent depuis assez longtemps pour qu'on leur dise juste tu vas passer 6 mois chez nous et tu vas aller ensuite être baladé dans une autre structure, dans un autre dispositif et autres. Non, on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Et donc, on a pu placer des femmes qui sur des postes d'assistantes dentaires, on place dans le tertiaire. Évidemment, on travaille également et on place aussi des personnes dans le domaine de tout ce qui est transport, préparation de commandes, mais c'est pas le cœur. On arrive justement à mixer entre le travail de l'accompagnement et la vocation économique du chantier à trouver des solutions. Dire pour un bon nombre de personnes, puisque l'année dernière, on était sur 86% de taux de sortie.
90% de taux de sortie ?
Oui, c'est-à-dire...
C'est énorme, c'est énorme.
Mais les sorties, ils vont vers où ? C'est aussi
les sorties sont divisées en 3 catégories, mais c'est pas le but du propos. Disons que dans les personnes qui sortent chez nous, 1 sur 2, quasiment, retrouvent un emploi.
Pérenne, durable.
Durable. Voilà. Donc on entend par durable, selon l'administration, le fait qu'il décroche un job d'au moins 6 mois.
Oui, c'est ça. En fait, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, pour l'administration, un emploi durable, c'est plus de 6 mois. Hein. Ce qui est assez peu, en fait, hein, quand on pense à trouver un logement, éventuellement avoir un petit crédit, etc. Ça reste très, très précaire. Hein.
C'est des sujets dont vous vous occupez d'ailleurs, enfin, c'est un peu une digression de ma part, mais tout ce qui est logement, etc., sur un chantier d'insertion.
Alors, vous avez tout à fait raison, dans insertion et accompagnement, il y a sociaux et professionnels. Donc sur l'aspect social, nous nous préoccupons de toutes les questions liées à la santé, qu'elles soient mentales, qu'elles soient psychologiques, si ce n'est pas un problème, je dirais, plus profond, mais on s'occupe des questions de logement... d'alcool, etc., etc. Je veux dire...
Toutes les choses qui sont un obstacle à l'emploi, à un moment, font l'objet de l'accompagnement socio-professionnel. Voilà. C'est le travail de l'accompagnateur.
Un problème de surendettement.
D'enlever tous les obstacles au retour vers l'emploi.
Oui, parce que ne pas avoir un travail, comme le disait si bien Laurence, quoi, ça va aussi avec le logement.
Bien sûr, pendant un moment, par exemple, sur le chantier, on avait une personne qui dormait tous les soirs en prison. Et donc, voilà, on peut considérer que dans c'est très difficile de retrouver un emploi pérenne, et d'ailleurs de retrouver un emploi tout court, quand la question du logement n'est pas posée, n'est pas résolue.
Tout à fait.
Merci. On arrive au milieu de notre émission, donc on commence à entendre des pas dans le bocal, dans le studio. On accueille Guillaume tout seul. Guillaume tout seul, bonjour.
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 Alors, on est beaucoup dans le studio, donc voilà, vous êtes bien installé.
Bah, très bien. Et puis Guillaume tout seul, il n'est pas tout seul en fait.
Non, il n'est pas tout seul, Guillaume tout seul.
Guillaume tout seul est deux. Alors Guillaume est venu avec
Mademoiselle
Pouette, qui joue du pipeau.
Presque.
De la clarinette. Guillaume a une guitare.
Un
mouzouki. Alors aussi. C'est quoi un mouzouki?
C'est un instrument grec à l'origine. Celui-là, c'est un irlandais en fait. Mais voilà, c'est un instrument à cordes.
En même temps, mouzouki irlandais, non mais c'est fou.
Mais en même temps, ça tombe très bien.
Ces irlandais.
Ça tombe très bien avec le temps estival qu'on a. Un mouzouki voilà, irlandais, c'est tout à fait adapté. Guillaume tout seul, on vous a beaucoup vu. On vous a rencontré en fait la première fois Zoom Écolo 3, puisque c'est nous Zoom Écolo 3, chez les Biffins, au carré des Biffins.
Ouais.
À chaque fois qu'il y a une cause un petit peu humanitaire, engagée, militante, on te retrouve en fait. Enfin, il y a la fête des AMAP, il y avait Guillaume tout seul, je crois d'ailleurs.
Cette année, on était avec tous les jambons volants, puisque Mademoiselle Pouette, elle fait partie des jambons volants en fait.
Ah, c'est quoi les jambons volants?
Les jambons volants, c'est un groupe qui m'a rejoint. J'ai commencé à jouer tout seul à l'origine, d'où le nom. et au fur et à mesure, j'ai été rejoint par un, puis deux, puis trois. Personne, et puis ben, on a décidé que ces personnes c'était les jambons volants.
Et l'idée c'est quoi en fait? C'est de faire des textes un petit peu poétiques
L'idée c'est de faire avec la musique par rapport au texte et tout ça, donc par rapport à ce qui me concerne moi, c'est de dire ce que je pense et de faire ce que j'ai envie de faire et ce qui je pense être utile. Alors une chanson, est-ce que c'est utile?
Oui, c'est très
mesure,
utile.
Mais, quand tu disais tout à l'heure pour toutes les causes, non, il y a plein de causes auxquelles je participe pas et j'ai pas le temps de tout faire. Quoi.
Toutes les causes qui t'intéressent.
Ouais. Mais les causes qui me semblent les plus importantes, les Biffins, tu disais tout à l'heure, c'est quand même un thème qui est assez important.
Et pour le coup, ça rejoint pas mal le thème d'aujourd'hui parce qu'on est aussi sur de la récupération.
Donc, bah, tout à fait. Dans ce cas-là, on est complètement dedans.
Et je crois que la chanson que tu voulais interpréter avec Marine, avec Mademoiselle Pouette, tout de suite maintenant, c'est aussi sur l'alimentation.
C'est sur l'alimentation parce que voilà, c'est un peu le thème. Donc c'est une chanson qui s'appelle « J'aime les OGM ». Parce que j'aime les OGM, moi.
On peut dire que c'est parti, alors.
Alors, allons-y.
Ok. Wapapai, wapadabadabadapapai, wapadabadabadapapai. Vous pouvez chanter, hein? Wapapai, wapadabadabadapapai, wapadabadabadapapai. Radai. Ce soir, je lui déclare ma flamme. Ce soir, je sens, je vais l'épater. J'ai rencontré une très belle femme. Je l'ai invitée à dîner. Je vais mettre les petits plats dans les grands. Faut que je lui fasse des fioritures. La table mène au lit, c'est évident. Elle va être épatée, c'est sûr. Alors, je vais au supermarché pour lui acheter un bon repas. Doit bien y avoir du surgelé. Fait longtemps que j'ai pas fait de pizza. J'ai rencontré un gars bizarre qui m'a retourné le cerveau. Du genre, lui il voit tout en noir. Un type pas loin d'être un blaireau. Et qui m'a dit, dans tes pizzas il y a plein de trucs très très dangereux. Je lui ai dit, mon petit gars, moi je consomme et je suis heureux. Moi j'aime les OGM, ils vont me guérir, j'en mange toutes les semaines, c'est un vrai plaisir, j'aime les OGM, ils m'aident à bien vivre, ils nourriront tous les enfants du monde, j'aime les OGM, ils vont me guérir, j'en mange toutes les semaines, c'est un vrai plaisir, j'aime les OGM, ils m'aident à bien vivre, ils sauveront la terre de la fin du monde. Wapapai, wapadabadabadapapai, wapadabadabadapapai, badalai. What? Je déambule dans les rayons, je prends une boîte un peu au hasard. Je regarde la composition, je comprends rien à ce bazar. Sur l'étiquette, il est écrit en très gros, produit du terroir. Et puis plus bas et en plus petit, c'est vraiment une toute autre histoire. Car dans ma boîte de cassoulet, y a plein de trucs que je connais pas. Du saindoux, de la farine de blé et des protéines de soja. De la gomme guare, du glutamate, des conservateurs 250. Et puis des diétriphosphates, je ne sais plus trop si ça me tente. Alors le gars de tout à l'heure revient me reprendre la tête. Il me dit attention mon gars, tu vas faire une erreur. Je réponds attends, je suis pas si bête. Moi j'aime les OGM, c'est mieux que les chimères. J'en mange toutes les semaines, entrée, plat, dessert. J'aime les OGM, y'a plus que les clones. Ils nourriront tous les enfants du monde. J'aime les OGM, c'est mieux que les chimères. J'en mange toutes les semaines, entrée, plat, dessert. J'aime les OGM, y'a plus que les clones. Ils sauveront la terre de la fin du monde. Wapapai, wapapapapapapai, wapapapapapapapai, wapapapapapapapai. Parlons de ça que j'ai repris. Les OGM, c'est très pratique. Ils vont sauver l'humanité, nourrir les enfants en Afrique. Parlons de ça qu'il a repris. Les OGM, c'est très pratique. On se retrouve pieds et poings liés. Les gros pleins de soupe se font plein de fric. Alors j'ai tourné les talons, le type savait pas ce qu'il disait. C'est pas comme la télévision qui est moins crétine que ce gros niais. Moi j'aime les OGM, et puis Monsanto, et puis Novartis, et puis Agrevo. J'aime les OGM, c'est tous mes amis, ils nourriront tous les enfants du monde. J'aime les OGM, et puis Monsanto, et puis Novartis, et puis Agrevo. J'aime les OGM, c'est tous mes amis, ils sauveront la terre de la fin du monde. Wapapai, wapadabrabrapapai, wapadabrapapai, rarai. Wapapai, wapadabrabrapapai, wapadabrapapai, rarai. Allez, solo improvisé. Supermarché, j'étais un petit peu dépité. Quel extrémiste, quel enragé. Moi j'étais pas mal énervé. Alors j'ai appelé les Condés. Ils m'avaient pourri mon dîner. Ça mérite au moins un PV. Ça peut servir, on sait jamais. Pour qu'ils lui prennent son ADN, il doit faucher des OGM. Pour qu'ils lui prennent son ADN, il doit faucher des OGM.
Merci. Magnifique, un peu de joël, un peu de surgelé, un peu de boîte, beau programme.
Bah oui, c'est PUAD.
On est en plein dedans.
Où est-ce qu'on peut... Je crois que tu as un site, Guillaume. Alors, guillaume-toutseul.com.
Exactement. Juste, il faut savoir que Guillaume est tout seul, ça s'écrit n'importe comment. C'est-à-dire, ça s'écrit G-U-Y-O-M. Et tout seul, T-O-U-S-E-U-L, logiquement. Voilà.
D'accord. Et puis, il y a aussi un MySpace qu'on peut aller voir. Les jambons volants, on peut les retrouver...
Avec moi.
Toujours avec lui.
Voler toujours ensemble.
C'est ça.
Eh ben, c'est parfait. Et puis, on aura une petite chanson à la fin.
Oui.
Voilà, donc on est reparti sur l'alimentation plaisir, santé, nutrition, on va parler...
Je crois que là, on a une bonne transition, parce que c'est vrai qu'on peut se poser les questions aussi de quels produits alimentaires, pour qui, les questions d'étiquetage. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les produits qui rentrent dans la composition ne sont pas étiquetés sans... Enfin, ça peut être étiqueté sans OGM, alors que la décomposition du produit n'indique pas forcément... les OGM dans l'alimentation du bétail, par exemple, qui est rentré dans le produit en question. Et puis, ça pose la question aussi de l'accessibilité, enfin de la malbouffe, pour dire ça simplement, quoi. Quels moyens pour acheter quelle bouffe et tous les soucis d'obésité qu'on connaît aujourd'hui qui sont fortement liés aux revenus. Et c'est un vrai souci pour notre société. J'imagine que vous travaillez beaucoup sur ces questions-là aussi.
Oui, on a beaucoup travaillé là-dessus, notamment sur tout ce qui est accompagnement à une meilleure alimentation des personnes en situation de précarité. Il y avait une étude qui était assez dramatique, qui était parue en 2005 et en fait qui s'intéressait à l'état nutritionnel des bénéficiaires d'aide alimentaire. Il y a à peu près 3 millions de personnes qui dépendent quasiment exclusivement de l'aide alimentaire en France pour se nourrir. Et c'est vrai que ces personnes-là sont fortement touchées par toutes les maladies liées à l'alimentation, notamment l'obésité et le surpoids. Il y a des taux d'obésité chez les femmes en situation précaire qui sont 3 fois supérieurs aux femmes au reste de la population, ce qui est quand même énorme. Et puis voilà, des taux de diabète et de tous ces types de maladies-là qui sont particulièrement marqués. Donc il y a vraiment un lien très très net entre santé et alimentation qui se fait jour grâce à ces études-là. Donc,
Alors quels sont les outils d'accompagnement, si je puis dire, les actions que vous pouvez avoir par rapport à ça, l'éducation?
La première action, elle est évidemment économique, c'est-à-dire que voilà, il y a un frein économique qui est évident à une alimentation équilibrée. Si vous décomposez un budget alimentaire, vous vous rendez compte que pour avoir vous une alimentation équilibrée, ça vous demande quand même un certain budget et que donc par définition, toute une partie de la population n'a pas accès à cette alimentation-là, et donc il faudrait peut-être créer un système de droit à l'alimentation qui serait pas juste de dire il faut satisfaire les besoins élémentaires de la personne, lui donner des glucides, des lipides, mais plutôt créer peut-être un référentiel à la valeur nutritionnelle des produits que chaque personne doit pouvoir consommer. Et voilà, aujourd'hui où on crée des plans de santé sur l'alimentation, on doit aussi s'interroger sur cette chose-là et de voir ce que représente un panier de fruits et légumes, du poisson une fois par semaine, de la viande une fois par semaine, ce que ça représente financièrement. Et puis ça n'est pas non plus suffisant, c'est-à-dire que on se rend compte aussi que le frein économique est un frein majeur, mais qu'il y a tout un ensemble de freins socio-culturels à une alimentation équilibrée, à la consommation de certains produits, notamment les fruits et légumes. On avait mené à la demande de Martin Hirsch, à l'époque où il était haut commissaire, une étude qui avait été menée d'ailleurs par un sociologue de l'alimentation sur l'impact de ce qu'on fait à Rungis, c'est-à-dire le fait de mettre à disposition gratuitement ou à très faible coût des fruits et légumes dans les Restos du Cœur ou dans les épiceries solidaires, quel impact ça avait. Et en fait, cette étude a montré que le fait que tout d'un coup ces produits soient accessibles économiquement aux personnes faisait qu'elles ont consommé beaucoup plus, mais qu'on était quand même très loin des repères du PNNS, des fameux 5 fruits et légumes par jour, et que pour se rapprocher de cet idéal-là, entre guillemets, ça nécessitait tout un accompagnement qui soit pas un accompagnement stigmatisant. C'est-à-dire que nous, on s'est beaucoup rebellé contre ces impératifs qui sont quasiment devenus des impératifs moraux, nutritionnels, qui ne tiennent pas du tout compte de la situation des personnes, que ce soit la situation économique, que ce soit la situation matérielle, parce que faire la cuisine, ça demande d'avoir quand même un minimum de matériel et d'espace. Si vous vivez dans un hôtel, par exemple, c'est pas possible.
Même les 5 fruits et légumes, c'est un peu une aberration en soi aussi.
Oui, probablement. Moi, je ne suis pas placée pour dire si c'est une aberration au point de vue médical, mais en tout cas, je pense que c'est un impératif qui est très douloureux pour des personnes, pour une mère, par exemple, qui est en situation précaire. Tout d'un coup, on lui dit 5 fruits et légumes, 5 fruits et légumes. Alors, elle se dit peut-être je suis au chômage et puis je suis en difficulté. J'ai un logement qui est trop petit pour mes 3 enfants. Et en plus, on me dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais comme je ne peux pas me le permettre, du coup, je suis une mauvaise mère parce que je nourris mal mes enfants. Donc, c'est une stigmatisation de plus et c'est encore dire, voilà, tu fais tout mal, et puis en plus tu fais la fonction nourricière maternelle ou paternelle, enfin parentale, qui est quand même la première des fonctions d'un parent, si on peut dire, qui est de nourrir ses enfants. Et ben ça aussi, ça marche pas, quoi. Donc je pense que ça nécessite, nous, ce qu'on fait dans les épiceries, c'est qu'on fait par exemple un truc tout bête, hein, des ateliers de cuisine. ou même des ateliers de cuisine enfants-parents, où l'idée, c'est d'amener des habitudes alimentaires qui soient meilleures, mais en faisant avec.
Alors, c'est quoi, concrètement, comment ça se passe?
Par exemple, vous savez que les enfants ça marche un peu comme ça, c'est-à-dire que les enfants, vous lui présentez des carottes râpées, ils trouvent ça dégoûtant parce qu'il en a à la cantine, il n'aime pas. Et puis, si vous lui présentez une deuxième fois sous une forme différente, par exemple sous forme de gâteau de carottes qu'en plus, il a fait lui-même et qu'il a joué avec comme de la pâte à modeler, tout d'un coup, d'abord, il ne sait plus que c'est de la carotte, en général, quand c'est un enfant petit, parce que ça n'a plus la même couleur, pas la même texture, pas la même forme, mais que du coup il fait plus l'association et du coup il aime ça et parce qu'il a aimé ça une fois il pourra l'aimer une autre.
C'est une éducation au goût aussi d'une certaine
c'est une
façon.
Tout à fait, c'est une éducation au goût. On sait que les enfants la première fois qu'ils goûtent quelque chose en général ils l'aiment pas et c'est en représentant sous plein de formes différentes que ça marche.
Et puis c'est aussi très valorisant quand on n'a pas de boulot, quand on est là chez soi à pas forcément savoir quoi faire, à regarder les murs, de faire un plat pour pas cher, mais qu'on présente, qui est goûteux, qui est joli, qui fait plaisir à tout le monde. C'est des choses extrêmement simples, mais qui sont très revalorisantes aussi. Il y a des études qui ont montré qu'en fait, la transmission du savoir-faire, alors que ce soit le petit bricolage ou la cuisine, sont des choses qui sont perdues sur une génération. Parce qu'il y a une génération qui a fait appel au plat préparé. C'est un fort marqueur social aussi. Mmh. C'est là aussi où c'est important, parfois, de pouvoir s'acheter une marque, quoi, y compris une bouteille d'un truc gazeux américain dont je ne prononcerai pas le nom ici. Mmh. Mais c'est des marqueurs sociaux aussi, pour être comme tout le monde. Mais en même temps, se dire que voilà, le savoir-faire se perd très vite, en fait. Et si ça n'est pas transmis, des parents aux enfants... voilà, il faut le réapprendre et de manière plutôt ludique et pas culpabilisante, comme vous le disiez.
Mais tout à fait, mais la cuisine, nous, c'est comme ça qu'on l'aborde. On aborde toujours l'alimentation dans les épiceries du point de vue du plaisir et du point de vue du lien social. La cuisine, c'est ça avant tout. Enfin, je veux dire, c'est un besoin, bien sûr, c'est un besoin de base, mais c'est surtout, et dans nos sociétés, dans la majorité des sociétés, c'est surtout un vecteur de lien social. C'est dans les cuisines, en faisant la cuisine, qu'on se raconte le plus de choses.
C'est pendant les repas qu'on se rassemble.
Et c'est pendant les repas qu'on se rassemble. C'est souvent d'ailleurs le seul moment dans les familles où on est tous au même endroit, au même moment. Et c'est un moment de partage, c'est un moment aussi pour faire honneur à ses convives. On se rend compte que par exemple on a des retours de dames qui sont dans des ateliers qui disent tout d'un coup j'ai fait cette recette, je vais la refaire avec mes enfants et puis je vais la refaire et puis je vais inviter des voisins à dîner et du coup j'avais plus invité des voisins à dîner depuis plein de temps parce que j'étais dans des situations, j'avais honte, voilà, et tout d'un coup là j'ai appris un truc hyper simple, pas cher, et je vais inviter mes voisins pour partager ce moment avec eux.
Et c'est d'autant plus important que c'est inquiétant au niveau des jeunes générations, au sens où, après avoir pris connaissance d'une étude qu'on appelle les études shoppers, donc c'est des études de consommateurs, et pour rebondir sur cet aspect générationnel du mode d'alimentation, il s'avère que sur la population des 18-24 ans, aujourd'hui, on estime à 80€ par mois la dépense liée à l'alimentation. Et qu'en fait, ils n'accordent plus aucune importance à la marque ou à ce qu'ils mangent. Il y a une fonction de « je me remplis le ventre simplement pour continuer ma journée ». Et donc c'est hyper inquiétant pour la suite, parce qu'on perd vraiment les repères qui sont de simplement... cuisiner et de se préparer à manger, de prendre le temps de dire je vais me nourrir et je vais essayer de bien me nourrir.
On assouvit purement son besoin, pyramide Maslow.
C'est inquiétant pour la santé, c'est inquiétant aussi pour la survie et le développement de l'agriculture paysanne, quoi. Parce que c'est vrai que pour des personnes qui ont les moyens, on s'est aperçu, alors maintenant à cause de la crise les chiffres changent un peu, mais en fait le budget consacré à l'alimentation pour les personnes qui ont les moyens, c'est un budget qui a été vraiment extrêmement réduit par rapport à d'autres postes de dépenses, notamment les loisirs, mais les loisirs de consommation aussi, d'achat de DVD, de forfaits téléphoniques, etc. Et au détriment d'une alimentation de qualité. Et au détriment d'une alimentation de qualité, ça veut dire aussi, du coup, acheter parfois des choses de très mauvaise qualité en grande surface et trouver que le poulet fermier chez le boucher est beaucoup trop cher. Encore une fois, pour des personnes qui pourraient avoir les moyens d'avoir accès à une alimentation de qualité. Mais ça, c'est aussi la survie de nos campagnes qui est en jeu.
Mais je pense que dans toutes les catégories socio-professionnelles, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu d'éducation qui est majeur, qui est majeur pour la connaissance des produits, qui est majeur pour simplement... Enfin, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a un brouillage nutritionnel qui s'est créé partout. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'est plus... On n'a plus le savoir de base qui consisterait, qui pourrait même être un savoir instinctif sur comment bien se nourrir, en fait. Et que l'éducation, elle est majeure sur le gaspillage alimentaire. On en parlait tout à l'heure, puisqu'on sait que les consommateurs sont quand même un des acteurs de ce gaspillage-là. Et puis, il est majeur, notamment pour les enfants. Nous, on milite un peu depuis plusieurs années, justement, pour dire qu'il faut éduquer les enfants, pas pour en faire des chantres du bio ou pas pour en faire des anti-sociétés de consommation, parce que c'est pas notre rôle, mais pour leur donner une conscience de l'alimentation, en faire demain des acteurs qui soient en capacité de jugement. C'est ça qu'on apprend à l'école, au fond. On vous donne, on vous apprend à faire des divisions, on vous apprend un certain nombre de choses qui, demain, fera de vous un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un qui sera capable de juger, juger d'une situation et de choisir.
Alors, est-ce que dans les outils qui sont mis en place, vous avez un moyen aussi de dire aux gens comment mieux gérer en fait son frigo d'une certaine façon, enfin, ses aliments.
Oui, tout à fait.
Mais lutter contre le gaspillage.
Bien sûr, mais c'est un peu la base. Lutter contre le gaspillage, c'est vrai que c'est un sujet qui est très en vogue maintenant parce qu'on s'est rendu compte de l'ampleur du gaspillage. Mais lutter contre le gaspillage, si on veut bien, c'est d'abord avoir une conscience de quand même un petit peu de la valeur de l'alimentation et d'abord le plaisir de l'alimentation aussi. C'est-à-dire que si c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, en général, vous ne le jetez pas à la poubelle. On le voit beaucoup dans les cantines, ça, par exemple. On voit beaucoup dans les cantines que les cantines pour les enfants, je parle en tout cas. On voit beaucoup que, par exemple, si vous êtes dans une cantine, vous verrez que les collégiens jettent énormément. Beaucoup plus que les lycéens, par exemple. Pourquoi ? Parce que les collégiens, en général, on leur impose de manger le plat principal et que le plat principal, on leur sert toujours la même quantité, qui sont en général des grosses quantités pour qu'ils mangent bien. Et que donc, on ne s'adapte pas forcément. On considère qu'un enfant de 14 ans doit manger. Et qu'en général, il n'aime pas. Peut-être parce qu'il n'a pas eu non plus l'éducation à aimer le poisson, à aimer les fruits et légumes, à aimer ce genre de choses. Mais voilà, ça passe aussi par tout cet aspect-là de conscience, de plaisir de la nourriture. Et puis de cuisine, c'est-à-dire voilà, cuisiner, apprendre à cuisiner les restes. On a sorti au mois de novembre un joli livre de cuisine que je vous recommande, qui s'appelle le Manuel de cuisine populaire. Et alors, c'est un livre un peu original parce que c'est... Voilà, les livres de cuisine, il y en a des milliers, mais c'est pas un livre comme les autres. Les livres de cuisine, vous savez, vous l'ouvrez, et alors là, vous avez des recettes. Et alors, une recette, c'est quoi ? C'est une liste d'ingrédients. Alors là, il vous manque toujours un truc, sauf si vous êtes une super maman cuisinière, mais il vous manque toujours le poivre de machin, l'épice bidule, le morceau de viande, c'est jamais exactement celui que vous avez demandé. Enfin, ça ne va pas, quoi. Donc déjà, vous êtes un peu embêté, vous vous dites, oh là là, mon Dieu, il manque ce truc-là, ça va être complètement raté. Ensuite, vous avez une description de la marche à suivre. Il y a toujours un mot que vous ne comprenez pas, genre passer au chinois, par exemple, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et après, vous avez une sublime photo d'un plat complètement formidable, un gâteau bien beau, bien monté, avec une jolie petite croûte, tout ça. Et vous, quand vous le faites, c'est tout retombé, c'est tout dégoûtant, ça ressemble à rien, quoi. Et donc, alors là, c'est la situation d'échec typique, voilà, rien ne va. Et nous, notre livre, il est parti un petit peu à l'envers. C'est-à-dire, on s'est dit, la cuisine, il s'appelle Manuel de cuisine populaire, c'est-à-dire la cuisine de tous les jours et la cuisine qui s'invente. Et donc, il ne parle pas d'un modèle idéal qu'est une recette avec des ingrédients et des trucs bien définis. Il parle des techniques. L'idée, c'est de dire, voilà, la cuisine, c'est des techniques. Il y a 6 chapitres, 6 techniques. La soupe, c'est quoi ? C'est des légumes, de l'eau. Soit vous coupez vos légumes en petits morceaux, soit vous les passez au mixeur à la fin. Et vous avez des légumes de base, vous avez des saisons pour les légumes, vous avez la pomme de terre et le poireau en hiver, et puis vous avez la tomate en été. Et à partir de là, vous pouvez broder. Et c'est un canevas, on vous donne la base, on vous donne la saisonnalité des produits, on vous apprend qu'il y a des saisons pour le poisson si vous ne le saviez pas, par exemple. Et à partir de là, libre à vous de faire ce que vous voulez ou ce que vous pouvez en fonction de votre budget, de votre frigo.
Les 5 autres, c'est quoi ? Alors on a la soupe.
Alors, il y a la soupe, il y a la tarte, il y a le cuit au pot, il y a le braisé, le rôti, et il manque toujours un...
Ça me donne faim.
Il commence à être l'heure de manger.
Non, c'est le cuit au pot. C'est la grande technique du cuit au pot que je ne vous raconterai pas, parce qu'il faut absolument que vous achetiez le Manuel populaire, qui est un livre solidaire. 10 euros, 1 euro reversé à
l'Andes. Je vous dis pas, l'émission super. Finie. Et ce manuel, on le trouve où ?
Ah bah partout, dans toutes les bonnes librairies, il est à la FNAC, il est dans les librairies de spécialisées dans la cuisine.
Ouais, les bonnes librairies.
Il est partout.
Alors là, Guillaume tout seul se révolte. Il est aussi dans les librairies indépendantes qui essayent de se survivre.
Nous invitons les libraires indépendants à nous contacter.
À nous contacter d'ailleurs.
Le numéro suivra à la fin de l'émission.
Il y a aussi un projet, je ne sais pas si on a encore le temps, mais j'ai cru comprendre en coulisses qu'il y avait aussi un projet peut-être de production maraîchère.
Oui, tout à fait. En fait, on s'est rendu compte que donc on achète des fruits et légumes, que vous, ça ne nous a pas échappé, le prix des fruits et légumes a beaucoup augmenté ces dernières années. Et que du coup, on s'est dit, voilà, au lieu d'acheter à des intermédiaires, pourquoi ne pas produire nous-mêmes ? Produire nous-mêmes pourquoi ? Parce qu'on fait de l'insertion, donc on remet des gens à l'emploi en milieu rural. Et
on sait que les jardins d'insertion, ça marche très bien en général. Enfin, c'est des beaux projets, quoi.
Ouais, ouais, tout à fait. Et le projet qui est un petit peu fou et qui vous fera sans doute plaisir, puisqu'on est dans une émission sur l'écologie, c'est qu'on va produire ces légumes de plein champ en bio pour l'aide alimentaire.
Bravo.
Chapeau. Voilà. On s'incline et on peut peut-être finir l'émission dessus. Tellement on est content de votre conclusion. Et puis l'heure a commencé à tourner. Bah écoutez, on vous remercie tous les deux pour.
Merci à vous.
Voilà, c'était particulièrement intéressant. Laurence, merci.
Merci à toi, Sophie.
Alexandre.
Puis merci à Cyril.
On pense à toi.
Aussi,
merci à Cyril, qui est toujours là pour nous aider. Voilà, quand on a des coups un peu difficiles, on n'est pas très bon à la technique. Donc voilà, merci à Guillaume, merci à Marine. Merci. Voilà, merci à Marie-Claude qui est aussi là dans le studio,
dans la salle.
On va écouter une dernière chanson de Guillaume qui cette fois est tout seul, vraiment tout seul sur.
Non, c'est un enregistrement. Non, pas du tout. C'est un enregistrement avec les jambons volants.
Avec les petits pois à roulettes.
Mais encore une fois, les jambons volants, c'est en rapport avec le thème. Donc c'est
mais
pour
on
ça...
a de plus en plus faim.
C'est une chanson, en fait, qui est sur les bifins. Donc,
On a reçu l'association Aurore
ouais,
en janvier dernier
pour parler des bifins.
D'accord. Bah, si les auditeurs n'étaient pas là à ce moment-là, les bifins, c'est des personnes qui récupèrent des objets dans les poubelles et qui les revendent ensuite un peu à la sauvette. Quoi. Donc,
qui ne sont pas toujours bienvenus à Paris, malheureusement.
Et qui sont bienvenus, non, qui ne sont pas du tout bienvenus. Ils ont un carré des bifins qui a été autorisé après des années de lutte dans le 18e.
Dans le 20e, c'est très difficile.
Dans le 20e, ça ne se passe pas bien du tout. Il y a des élus PS notamment qui sont très très virulents contre les bifins.
Heureusement, il y a des élus écolos qui sont plutôt pour.
Il y a des élus écolos et des élus Front de Gauche qui sont un peu dans la lutte pour les bifins, pour faire avancer cette lutte qui vaut le coup, parce qu'il s'agit quand même de personnes qui ont assez peu de ressources, qui vendent des choses qu'ils récupèrent dans les poubelles, qui les rebricolent de façon à ce que ça marche si c'est un peu cassé, qui les lavent si c'est sale de façon à ce que ce soit présentable. Et à la fois, ça a ce côté social et ça a le côté écolo de récup, réutilisation, etc., qui est fondamental, quoi.
C'est plutôt une bonne nouvelle, c'était le titre de la chronique de Laurence. On est encore dans les bonnes nouvelles pour pouvoir récupérer et de l'alimentation et des objets. On va terminer sur cette chanson. Merci à tous. Zoom Écologie, c'est fini. 106.3 RFPP, c'est rediffusé demain à 11h. Puis on se retrouve le mois prochain.
Trucs épatants, y a des vêtements, de la vaisselle, plein de trésors, assurément. À Paris, dans les poubelles, quand on cherche bien, évidemment, on tombe aussi sur de la dentelle, les pièces en or, bien moins souvent. Il y a des gens qui trouvent ça louche, faire les poubelles, moi je trouve ça bien. Suffit de ne pas faire la fine bouche, se boucher le nez, plonger les mains. Et les bifins dans le 18ème, à force de manifester, ont été reconnus et même, ils ont obtenu un carré. On veut des places pour les sans-places, des papiers pour les sans-papiers, des maisons pour les sans-abri, de la raison pour les abrutis. On veut des places pour les sans-places, des papiers pour les sans-papiers, des maisons pour les sans-abri, de la raison pour les abrutis. Mais sans-place pour 600 bifins, ça fait tout de même un peu léger. 500 en place au bord du chemin que la police peut pourchasser. 800 place pour 600 bifins, ça pue tout de même un peu l'arnaque. 500 en place au bord du chemin, rien qu'à voir ça, je me sens patraque. À toutes les portes de Paris, on veut des places pour les sans-places, pour qu'ils vendent les fruits de leur nuit. Ça ralentit le temps qui passe, et si tous les bifins du monde voulaient un jour se donner la main, ça ferait comme auprès de ma blonde, nom d'un chien, ça marcherait bien. On veut des places pour les sans-places, des papiers pour les sans-papiers, des maisons pour les sans-abri, de la raison pour les abrutis. On veut des places pour les sans-places, des papiers pour les sans-papiers, des maisons pour les sans-abri, de la raison pour les abrutis. Quant à Belleville, les gens déballent, il y a du monde qui apprécie de pouvoir acheter pour que dalle. Un peu de ça, un peu de ci. Quant à Belleville, les gens déballent, on trouve aussi bien des mamies que des genoux qui crèvent la dalle. Et trouvent tout bien moins cher ici, il y a bien sûr quelques soucis. Habiter près d'un marché, il y a du monde, c'est pas pratique, 10 minutes pour le traverser. Mais si on s'organise un peu, y'a les bifins sur les côtés, avec un passage au milieu, que tout le monde puisse se promener. On veut des places pour les sans-places, des papiers pour les sans-papiers, des maisons pour les sans-abri, la raison pour les abrutis. On veut des places pour les sans-places, des papiers pour les sans-papiers, des maisons pour les sans-abri, la raison pour les abrutis. Les bifins, c'est pas des bouffons, m'a dit l'autre jour un ami. Ils vont pas rester comme des pions puisqu'il s'agit de leur survie. Façon, quelle que soit la saison, ça fait longtemps qu'ils sont ici à ramasser sans déraison les objets qu'on jette sans souci. On veut des places pour les sans-places, des papiers pour les sans-papiers, des maisons pour les sans-abri, de la raison pour les abrutis. On veut des places pour les sans-places, des papiers pour les sans-papiers, des maisons pour les sans-abri, de la raison pour les abrutis. On veut des places pour les sans-places, des papiers pour les sans-papiers, des maisons pour les sans-abri, de la raison pour les abrutis. On veut des places pour les sans-places, la raison pour les abrutis.